Le cinéma féminin, ça existe de plus en plus. Peu à peu, on voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « Mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. » Ça veut dire qu'il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes et qui va s'amplifier.
Go ahead and stare. I'm not ashamed.
Actrice et réalisatrice française née à Beyrouth, elle fut une fée, une vampire, une bourgeoise, une artiste schizophrène, une épouse d'ambassadeur et bien sûr la célèbre Madame Tabar, apparition et objet de fantasme d'Antoine Doinel. Et Jeanne Dillman, prisonnière d'un quotidien routinier. Découverte par Alain René, Delphine Seyrig fut l'incarnation de la bourgeoise sophistiquée avec son port altier, son sourire mystérieux, sa voix chaude et sa distinction naturelle. L'actrice a tourné chez François Truffaut, Marguerite Duras, Don Siegel, Louise Buñuel, Joseph Losey, Chantal Akerman, William Klein ou encore Mario Monicelli. Un panel de cinéastes français et internationaux, hommes et femmes, qui correspond bien au cosmopolitisme de l'actrice qui a grandi entre le Liban, New York et la Suisse. Disparue en 1990, Delphine Seyrig a aussi réalisé une poignée de films documentaires avec le collectif Les Insoumuses et son binôme Carole Roussopoulos, témoignage d'un engagement féministe précurseur. Pour évoquer cette figure essentielle du cinéma des années 60 aux années 80, j'accueille aujourd'hui Jean-Marc Lalanne, rédacteur en chef des Inrocks et auteur du livre Delphine Seyrig en construction, paru aux éditions Capricci. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Alors pour commencer, j'aimerais vous demander la signification du titre de votre livre. Que sont les constructions de Delphine Seyrig ?
L'idée qui a prévalu au livre, c'était que plus que toute autre actrice, et peut-être même plus que beaucoup de réalisatrices, elle a pointé toutes choses comme des constructions. C'est-à-dire des choses qui, usuellement, on vit comme naturelles, naturalisées. Des constructions sociales, elle montrait que c'était des constructions, le fait d'avoir un âge dans la vie, d'appartenir à une génération, d'appartenir à une classe sociale, d'être une femme, d'être hétérosexuelle, toutes choses qui souvent au cinéma peuvent être montrées comme naturalisées, elle montrait que c'était la production de quelque chose, d'un processus, que c'était une construction sociale. Quand elle joue une bourgeoise, elle ne l'incarne pas, mais elle montre comment s'est fabriquée une bourgeoise. C'était mon idée sur son travail d'actrice, puis ensuite de réalisatrice, c'est qu'elle elle déconstruisait, et donc en déconstruisant, elle montrait que tout n'était que construction. Et en même temps que la construction me semblait vraiment qualifier le travail de Delphine Seyrig, c'était aussi une façon de parler de ce qu'était le livre, c'est-à-dire que lorsqu'on est critique et qu'on travaille sur l'œuvre de quelqu'un, ce qu'on échafaude, c'est des constructions, et donc c'est aussi une somme de constructions sur Delphine Seyrig. Donc en construction, ça vaut pour les deux, les constructions Delphine Seyrig et les constructions que le livre produit sur Delphine Seyrig.
Alors Delphine Seyrig vient d'une famille de la grande bourgeoisie industrielle et intellectuelle, c'est ce que vous expliquez au début de votre livre. Son arrière-grand-père était l'associé de Gustave Eiffel. Son père Henri Seyrig a été attaché culturel à New York, puis enseignant à l'école libre des hautes études. Il a fréquenté de nombreux artistes. Sa mère Hermine de Saussure était d'origine aristocratique et sa famille appartenait depuis le XVIe siècle à la haute société protestante. Donc elle naît vraiment dans un environnement aisé, intellectuel, érudit. Et dans votre livre, vous liez ses origines à ses rôles de grande bourgeoise, de dame, qu'elle a si souvent joué dans l'année dernière à Marianne Bad, Baiser volé, Le charme discret de la bourgeoisie. Donc ces rôles de grande bourgeoise, est-ce que c'est quelque chose de naturel pour elle ? Est-ce que c'était le rôle qui lui aurait été assigné si elle avait fait autre chose, si elle n'avait pas été actrice ?
Alors, je pense que si elle a été actrice, c'est précisément un peu déjà une réaction contre sa famille. Enfin, d'ailleurs, son père a quand même plutôt encouragé sa carrière. Elle avait peur de lui dire qu'elle ne voulait pas faire d'études, qu'elle voulait être actrice. Et comme sa famille était quand même très libérale et très progressiste, même si c'était de la très grande bourgeoisie, ils l'ont quand même accompagnée, mais c'était quand même un geste un peu de déprogrammation, d'être actrice, de partir à Paris. Donc si elle n'avait pas été ce qu'elle était, c'est-à-dire quand même un principe de rébellion dès le départ, elle n'aurait peut-être pas été actrice. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cinéma l'a ramenée à la case départ, alors qu'avant de devenir actrice, elle avait un peu rejeté tous les signes archétypaux de la féminité de la bourgeoisie en même temps. C'est-à-dire quand elle était une très jeune fille, voire une adolescente, elle était vraiment coiffée comme un garçon, elle portait des pantalons, elle s'habillait qu'en noir, un peu comme disons Juliette Gréco ou la jeunesse existentialiste, intellectuelle, bohème de l'après-guerre. Et donc la créature qu'Alain René va recomposer dans l'année dernière à Marianne Bad, cette féminité très très appuyée, ses robes de soirée, ses coiffures très sophistiquées, cette élégance de très grande bourgeoise, c'est à la fois effectivement ce qu'elle a été programmée à être au départ, mais qu'elle avait rejeté. Donc c'est une construction, c'est une performance. C'est pas du tout le point où elle en est dans sa vie lorsqu'elle accepte de faire Marianne Bad, où elle a déjà 29 ans. Elle retrouve ce qu'elle aurait pu être et qu'elle a choisi de ne pas être.
Alors, on ne se doute pas que Delphine Seyrig a vécu deux échecs relativement importants au début de sa carrière. Premièrement, celui de ne pas intégrer le TNP de Jean Villard, qu'elle admirait tant, et où son ami Philippe Noiret faisait son apprentissage. Donc, elle rate les auditions du TNP en 1954 et 55. Et ensuite, lorsqu'elle déménage à New York avec son mari, elle n'est pas admise à l'Actor Studio. Elle est juste autorisée à assister à quelques cours en tant qu'observatrice. Est-ce que ces deux échecs ont été déterminants dans sa construction actrice?
Alors je pense, oui, elle a été assez malheureuse entre 20 et 30 ans d'un point de vue professionnel. Elle a été, je crois, en tout cas pour ce qu'en atteste la biographie de Mireille Branger sur elle, je crois qu'elle était assez heureuse dans son mariage et sa vie personnelle était plutôt harmonieuse entre 20 et 30 ans, alors que c'est devenu plus compliqué plus tard. Mais par contre, elle était dans un état d'échec professionnel après avoir très jeune pris des cours de théâtre. Elle travaillait très peu. Jusqu'à 25 ans, elle faisait des tournées de province, de petites compagnies où elle était très très mal payée. Donc c'était une carrière vraiment difficile. Lorsqu'elle suit son mari à New York, elle essaie de travailler, mais c'est encore plus dur, même si elle est parfaitement anglophone, puisque adolescente, elle a vécu à New York à cause des déplacements de son père. Et effectivement, elle idolâtrait Jean Villard et Gérard Philippe. C'était vraiment une passion d'adolescente. Elle était amoureuse, entre guillemets, de Gérard Philippe. Et elle n'a pas réussi à intégrer le TNP parce qu'on trouvait que son jeu n'était pas assez classiquement théâtral, sa voix ne portait pas assez fort. Et en fait, pour devenir la très grande actrice de théâtre qu'elle va devenir dans les années 60, il faudra que le théâtre ait un peu bougé et que l'art de Claude Régis, qui est peut-être plus moderne d'une certaine façon que celui de Villard, accepte des actrices qui n'ont pas une voix qui porte et qui ont un jeu plutôt du côté de la rétention que de l'extraversion. Donc voilà, et puis ensuite effectivement elle adorait aussi le cinéma américain des années 50, Elia Kazan, Montgomery Clift, tous les acteurs formés par Lee Strasberg, et de la même manière elle n'a pas réussi à entrer à l'Acteur Studio. Donc oui, je pense que elle a pu prendre conscience qu'elle avait une étrangeté qui n'allait pas rendre les choses faciles, et peut-être aussi que la conscience de cette étrangeté lui a permis d'en faire quelque chose et de trouver. Elle a eu ensuite à la fois la chance et de rencontrer les gens qui ont su quoi faire de cette étrangeté. De Duras à Alain René.
Un grand palace international, immense, baroque, au décor fastueux mais glacé. Un inconnu erre de salle en salle, longe d'interminables corridors à la recherche d'une femme. Il lui dit qu'ils se sont rencontrés déjà l'année dernière.
Souvenez-vous.
Qu'ils ont vécu une grande histoire d'amour. Qu'il revient maintenant à un rendez-vous fixé par elle-même, qu'il va l'emmener avec lui. Mais la jeune femme dit qu'elle ne le connaît pas.
Je vous répète que c'est impossible, je n'ai même jamais été à Frederiksberg.
Il insiste, elle s'insurge.
Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez, je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre.
Je ne voulais pas vous souvenir, parce que vous avez peur. Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie?
La jeune femme cède du terrain, grave, sûre de lui, l'inconnu accumule des preuves. Qui a raison? Qui ment? L'homme est-il un banal séducteur, un fou, ou bien confond-il deux visages ?
Alors, vous l'avez dit, elle débute assez tard au cinéma, en 1961, à presque 30 ans. Elle interprète l'un des rôles principaux d'un film qui est aujourd'hui un chef-d'œuvre, le deuxième long-métrage de fiction d'Alain René, l'année dernière à Marianne Bad. Le film reçoit le Lion d'Or à Venise et fait presque 900 000 entrées, ce qui est énorme. Donc, c'est un très grand succès public et critique. Est-ce qu'on peut considérer que c'est Alain René qui découvre Delphine Seyrig, ou au moins, du moins, est-ce que c'est lui le premier cinéaste vraiment à lui donner sa chance ?
Oui, absolument, parce qu'avant, elle a fait un moyen métrage aux États-Unis, un film de Robert Frank où il y a un peu la quintessence de l'avant-garde de l'époque sur un scénario de Jack Kerouac. Et ce film qui s'appelle Pull My Daisy, en fait, elle n'y est vraiment pas regardée. Et on a l'impression que parce qu'elle était l'épouse de John Dugerman qui appartenait à cette bande, on l'a pris parce qu'elle était là, mais on ne la sent pas du tout regardée, alors qu'Alain René la voit, vraiment la voit, elle la révèle. Et pour ce qu'on en sait, en plus, elle a vraiment été associée au processus créatif du film. René voulait qu'elle ressemble à une actrice hollywoodienne des années 30, et ils ont beaucoup revu ensemble des films avec Greta Garbo, avec Marlene Dietrich. Ils ont, c'est vraiment une construction commune, cette apparition extrêmement fascinante, enfin d'une puissance d'évocation et de glamour assez inouïe dans l'année dernière à Marianne Mad. C'est René et Céric vraiment qui ont construit. Elle a été très associée aussi au design du personnage. C'est Chanel qui a conçu les costumes. Et là encore, elle a eu vraiment un regard porté sur l'apparence du personnage. Donc c'est aussi sa créature, le personnage féminin de Marianne Mad.
Alors vous écrivez, elle devient la figure de proue de ce que le cinéma en France à l'aube des années 60 a produit de plus innovant et contemporain. Pourtant, elle ne devient pas une égérie de la nouvelle vague au même titre que Jeanne Moreau ou Jane Seberg. Est-ce qu'elle a appartenu à un mouvement artistique ou c'était une indépendante totale?
Je dirais plutôt qu'elle a accompagné plusieurs mouvements. C'est-à-dire qu'elle est quand même proche aussi du nouveau roman. Robe Grillet pour l'année dernière, Marianne Mad. Ensuite, elle va être une amie personnelle très proche et une collaboratrice fidèle de Marguerite Duras. Elle est, même si c'est pas vraiment le nouveau roman, c'est quand même les éditions de Minuit. Elle va être aussi assez proche de Samuel Beckett. Donc, elle est aussi très proche de l'avant-garde littéraire. Par son frère, Francis Herring, qui était un compositeur proche de Messiaen, elle est aussi proche des avant-gardes musicales de l'époque. Elle croise quand même la nouvelle vague, puisqu'elle tourne, elle est très amie avec Agnès Varda, elle tourne avec Demi, avec Truffaut. Donc elle est vraiment à la confluence de presque toutes les avant-gardes des années 60. Elle est, pour moi, elle est vraiment une sorte de personnification de l'avant-garde des années 60 artistique.
Madame, vous n'aviez pas le droit d'entrer ici. Le magasin est fermé. Si toutes les clientes faisaient comme vous...
Mais si toutes les clientes faisaient comme moi, toutes les clientes s'appelleraient Fabienne Tabar. Je suis la femme du patron.
Oh, excusez-moi, je suis vraiment confus. Je suis désolé.
Oui, mais c'est pas grave du tout. Vous faites votre travail. C'est vous le nouveau.
Oui, c'est moi, oui.
Antoine, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures? Trop doré pour la robe. Hein. Oh, vous avez raison. Je vais jouer autrement. Allez me chercher une paire de sandalettes comme celle-ci, mais à bout de satin noir, du 4,5. D'accord?
Oui.
Alors, très souvent, les personnages joués par Delphine Seyrig sont comme des apparitions. Elle a quelque chose de mystérieux, d'envoûtant, de rayonnant. On vient de l'entendre dans cet extrait de Baiser volé chez Truffaut, où elle incarne Madame Tabar, l'épouse du vendeur de chaussures et future maîtresse d'Antoine Doinel, mais aussi chez Jacques Demy, où elle joue la fée Delila, marraine de Podane, ou chez Harry Kummel, où elle joue une comtesse vampire qui ne vieillit jamais dans Les Lèvres Rouges. D'où vient le côté mystique de ces personnages? Est-ce que c'est une construction des cinéastes avec qui elle travaille, ou c'est vraiment quelque chose de naturel qui émane d'elle?
Je ne suis pas sûr que ça puisse être naturel. Je pense qu'elle-même l'a construit. Après, c'est vraiment une hypothèse psychologique de ma part, mais je pense qu'elle avait envie d'être notre à part. Qu'il y a quelque chose. Elle voulait. Elle avait le désir d'être exceptionnelle, je pense, et même si la voix, c'est en partie quelque chose de naturel, la manière dont elle l'a travaillé, ce qu'elle en a fait, je pense qu'elle avait une conscience de sa puissance de fascination très forte, que le fait de rencontrer René, de travailler Marianne Mad de cette façon, lui a permis d'en faire vraiment quelque chose, et que d'autres cinéastes sont allés la voir pour ça. Je pense que Truffaut, Je dirais que Truffaut a érotisé comme personne ce personnage de la femme de 40 ans un peu magique qui effectivement Antoine Donnel dit d'elle qu'elle est une apparition, c'est presque une créature surnaturelle, mais c'est vraiment la femme dans la plénitude de sa maturité telle que peut le modeler l'imaginaire érotique d'un jeune homme de 20 ans qui est Antoine Doinel. Et donc il y a une manière très aimante et très érotisée de Truffaut de rassembler ces qualités particulières qui étaient les siennes dans ses postures, dans sa voix, sa puissance d'envoûtement et de fascination. Je pense que ça n'a jamais été autant désiré par un cinéaste que par Truffaut.
Vous mentionnez la voix de Delphine Seyrig. Évidemment, c'est la signature de l'actrice. Vous consacrez tout un chapitre dans votre livre à sa voix. Vous la décrivez comme une voix à la tessiture chaude et l'intonation chantante. Et d'ailleurs, il y a plusieurs films où en fait, elle n'est présente que par la voix. Elle est absente physiquement chez Varda, par exemple.
Oui, absolument. On ne la voit jamais dans documentaire. Elle est tout le temps. Alors pas vraiment une voix off. Elle est censée être dans l'espace du film. Elle est hors cadre et on l'entend parler. Et il y a à un moment donné une opération un peu avant-gardiste qui est faite sur sa voix où notre personnage parle, est enregistré et la voix qui a été enregistrée n'est pas la voix qu'on a entendue, mais la voix de Delphine Seyrig. Et il y a plusieurs occurrences comme ça où sa voix est comme affectée de propriétés magiques. Je pense que sa voix était tellement fascinante qu'elle est devenue un outil pour les cinéastes pour déconstruire les mécanismes du cinéma, défaire les relations naturelles entre l'image et le son. Et bon, évidemment, personne n'est jamais allé aussi loin dans ce sens que Marguerite Duras dans India Song, puis dans un autre film, Son nom de Venise, dans Calcutta Désert, où la voix de Seyrig est parce qu'on peut regarder un cadre vide comme c'est le cas dans Son nom de Venise, où il n'y a absolument rien sinon la voix de Seyrig, et on ne s'ennuie pas, on est captif de cette voix, et du coup cette voix permet d'aller très très loin dans l'audace et l'avant-garde.
Where do you think you're going, Valerie?
Let me go. You're hurting me. Will you let me go?
No, not till you've answered me.
I'm going back to Stefan. That's what you wanted, isn't it? I'll tell him.
You'll tell him what? That you understand him now? That you understand his kind of love?
Stefan loves me, whatever you may think.
Stefan loves me, whatever you may think. Of course he does. That's why he dreams of making out of you what every man dreams of making out of every woman. A slave, a thing, an object for pleasure. So you despise me. So I disgust you. Come, I'll show you what men are really made of. Every man, yours.
On vient d'entendre un extrait des Lèvres rouges de Harry Kummel, sorti en 1971. Donc Delphine Seyrig parle en anglais. Elle a joué avec de nombreux cinéastes étrangers, Mario Monicelli, Don Siegel, Joseph Losey, mais aussi Fred Zinnemann, Ulrike Oettinger. Donc c'est une des caractéristiques de Delphine Seyrig, cette capacité à jouer partout dans le monde, à s'adapter à d'autres manières de travailler et d'autres cultures cinématographiques. Je veux savoir comment elle était perçue à l'étranger. Est-ce que ses rôles sont différents par rapport à ceux de ses films français.
Elle a été appelée à l'étranger pour ce qu'elle incarnait dans le cinéma français, notamment dans Le Chacal de Fred Zinnemann, qui est un thriller assez brillamment conçu, où elle joue vraiment une bourgeoise française. On se dit que Fred Zinnemann a forcément vu Baiser volé, et que c'est pour ça qu'il l'a prise. Elle a un tailleur qui ressemble à celui de Baiser volé. Donc elle a souvent été importée à l'étranger, en tout cas dans les films les plus mainstream, disons, l'image qu'elle avait construite dans le cinéma d'auteur français. Après, je dirais que Ulrike Oettinger, qui est donc cette cinéaste allemande expérimentale, avec qui elle va tourner à partir des années 80, à un moment donné où elle est un peu délaissée par le cinéma français, Ulrike Oettinger va au contraire libérer un espace de jeu pour elle immense, où elle n'arrête pas de se déguiser dans un principe d'accumulation carnavalesque assez étourdissant. Donc je dirais que Ulrike Oettinger, au contraire, lui offre un espace que le cinéma ailleurs ne lui offrait plus.
On vient d'entendre l'extrait donc des Lèvres Rouges. Pourquoi elle accepte ce projet de ce cinéaste Harry Kummel qui est assez méconnu à l'époque? Comment elle arrive sur ce projet?
Alors, elle a, dans une interview accordée à Jacques Chancel sur Radio France à l'époque de la sortie du film, elle disait quelque chose d'assez beau sur les personnages de vampires. Elle disait que le vampire était un être incomplet, même s'il avait des attributs qui pouvaient faire rêver, comme l'immortalité. Au fond, c'était plus que tout autre être vivant, un être qui était caractérisé par le manque. La survie était un problème pour lui, parce qu'il devait tuer, s'alimenter, qu'il était pourchassé. Et donc c'était cette dimension ségrégée du vampire qui l'attirait beaucoup. Elle était émue par les vampires. Et alors, après, le scénario du film a un contenu assez féministe. En 71, elle est déjà proche du MLF, et elle va aider l'autre personnage du film à s'affranchir d'un petit ami qui la bat, et elle va lui permettre d'échapper aux violences conjugales. Donc je pense que ce contenu politique du film, elle y était évidemment très sensible aussi. Et par ailleurs, le film est vraiment très beau, et ce qu'elle y fait, ça lui permet de revisiter à nouveau, un peu comme 10 ans plus tôt dans Marianne Bad, l'imaginaire hollywoodien qui la faisait rêver. Elle a un côté vraiment Marlene Dietrich dans le film. Elle a une robe de sirène brillante, qui est une image extrêmement frappante. Donc voilà, il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles je pense elle a bien fait d'accepter les Lèvres Rouges.
Et encore une fois, elle est érotisée dans ce film parce que c'est érotique un petit peu.
Complètement.
Ouais. Et elle est mystifiée. C'est un personnage comme ça qui arrive, une comtesse qu'on découvre vampire, mais ça participe encore à cette construction.
Oui, alors en essayant de spoiler le moins possible, à la fois effectivement, elle est parée de vertus magiques, elle ne vieillit pas, elle a une autorité, une puissance inouïe, et en même temps la résolution du film la met quand même dans une situation d'extrême faiblesse, et elle est quand même punie de tous ses pouvoirs, et c'est quelque chose qui va revenir aussi dans sa carrière, l'imaginaire de la sorcière et de la crémation, et l'idée de lui faire payer quand même sa puissance.
Alors 1975, c'est une année exceptionnelle pour Delphine Seyrig. Elle joue dans 7 films cette année-là, dont 3 qui sont présentés au Festival de Cannes. India Song de Marguerite Duras, Aloïse de Liliane de Kermadec et Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman. Et chose remarquable, ces 3 films sont réalisés par des femmes. Donc c'est une année cruciale dans la carrière de Delphine Seyrig. Est-ce que les choses changent pour elle à partir de 1975?
Oui, je pense que rien n'est plus pareil ensuite pour elle. C'est quelque chose qu'elle attendait depuis très longtemps. Dans plusieurs interviews, elle dit que dans les années 73-74, elle dit à plusieurs reprises qu'elle souffre de n'avoir porté que des récits masculins. À part la musica de Duras, mais qui est le premier film de Marguerite Duras en 67, mais qui était co-réalisé avec un homme. Et tout à coup, effectivement, il y a des projets portés par des femmes qui la mettent absolument au centre, qui lui permettent de composer en plusieurs films une sorte de portrait de la condition féminine au XXe siècle. Et c'est vraiment ce que sont ces 3 films-là, quoi. Vraiment en 3 volets, le portrait de la femme, India Song, Jeanne Dillman, Aloïse, à plusieurs endroits du siècle, à plusieurs endroits de la Terre, puisque le film de Duras, par exemple, est censé se passer en Inde. Donc à la fois, elle va porter des visions féminines, raconter quelque chose qui lui tient vraiment à cœur sur la situation faite aux femmes, et particulièrement avec Duras et Akerman, être aussi au point le plus avancé de la modernité cinématographique de son temps. Au même moment, elle-même passe à la réalisation. Donc je pense que tout ça est très très articulé, que peut-être qu'il fallait qu'elle atteigne cette apothéose d'actrice pour elle-même s'autoriser à filmer. Mais donc tout ça, c'est, disons, les vertus et l'aspect positif de cet accomplissement absolu qu'est l'année 75. Et en même temps, je pense, j'ai l'impression que après avoir atteint ce point-là, il y a comme une mélancolie, en fait. Et j'ai l'impression que sa carrière d'actrice, en tout cas ensuite, d'une part, elle ne va pas trouver des sommets comme Jeanne Dillman et India Song par la suite, et puis assez vite ensuite, peut-être parce qu'elle a délivré une image trop forte, elle va être mise à la périphérie du cinéma. Donc c'est à la fois un accomplissement, mais aussi le germe d'un travail de deuil du cinéma qui va ensuite se déployer sur les 15 années qu'il lui reste à vivre.
chère Jeanne, cher Sylvain. Il faut d'abord que je m'excuse auprès de vous d'avoir mis si longtemps avant de vous répondre. Pourtant, je pense souvent à vous deux et à la Belgique. Mais il y a eu la rentrée des classes et j'ai été très occupée. Et puis, on ne voit plus le temps passer. Et voilà maintenant que je me rends compte que c'est déjà l'hiver. Ici, il y a énormément de neige et c'est à peine si je sors. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école vendredi dernier parce que les routes étaient impraticables et moi, je suis presque tout le temps à la maison parce que sans voiture, on s'enfonce immédiatement dans la neige. Jack a d'ailleurs dit que l'année prochaine, il m'apprendra à conduire parce que ce n'est plus possible comme ça, avec ces énormes distances. Et il a d'ailleurs dit que puisque j'habite au Canada, je dois épouser les mœurs du pays et ici, toutes les femmes conduisent, mais j'ai bien peur que je ne saurai jamais. Mais à cette époque de l'année, les voitures sont complètement recouvertes de neige, les enfants vont bien, ils sont grands et robustes, vrais Canadiens, et Jack aussi. J'ai même un peu peur que Jane ne devienne trop grande, mais elle est bien de toute façon. J'espère que vous pourrez enfin les voir cet été. Nous avons une belle chambre d'amis, et Sylvain pourra dormir avec son cousin. Peut-être que nous pourrons te faire rencontrer quelqu'un. Jack dit que tu devrais te remarier. Il dit qu'une belle femme comme toi ne devrait pas rester seule. Ça fait maintenant plus de 6 ans que George est mort. Nous savons que tu es très courageuse. Même si tu dis que tu préfères rester seule, nous savons que tu dis cela pour ne pas te plaindre. Et parfois, quand je pense à toi, j'en ai les larmes aux yeux. Enfin voilà, Jack va bientôt rentrer et je dois encore mettre la table. Alors je te laisse et je vous embrasse bien fort tous les deux. Votre sœur et tante Fernande qui vous aime. P.S. J'ai envoyé le mois dernier par bateau un cadeau pour l'anniversaire de Jeanne.
Alors, on vient d'entendre un extrait de Jeanne Dillman, le film de Chantal Akerman qu'elle réalise à l'âge de 24 ans. Delphine Seyrig y incarne donc Jeanne Dillman, cette femme au foyer qui est veuve et mère d'un adolescent qui passe ses journées à s'occuper de son logis, des tâches ménagères, à préparer les repas et qui se prostitue chez elle, hein, chose qu'elle garde évidemment secrète. Et toutes ces journées sont rythmées, cadencées par ces longues tâches plus ou moins ingrates jusqu'à l'irruption d'un événement inattendu qui va tout dérégler. Pour Chantal Akerman, c'était essentiel que ce soit Delphine Seyrig qui incarne Jeanne Dillman, parce qu'elle charriait tout un imaginaire, celui de la haute société, de l'appartenance à l'élite intellectuelle, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, Jean-Marc, et aussi parce que c'est insupportable de la voir, elle, à cette place-là. Donc, est-ce que c'est un film révolutionnaire dans la carrière de Seyrig, un film dans lequel justement est rejeté tout l'imaginaire construit autour d'elle, et est-ce que dans ce film, finalement, elle ne serait pas tout sauf une apparition ?
Oui, bien sûr. De toute façon, Jeanne Dillman est une révolution à différents titres. Enfin, c'est une révolution dans l'histoire du cinéma. Et c'est aussi une révolution, comme vous le dites, dans la carrière de Delphine Seyrig. Je pense que assez sciemment, à la fois Chantal Akerman choisit Delphine Seyrig parce qu'elle va casser des mécanismes d'identification naturaliste. Parce qu'elle voulait qu'il n'y ait rien de naturel à ce que une femme occupe cette place-là. Donc elle a choisi le corps le plus inattendu qui soit à cette place-là. Et en même temps, je pense qu'elle veut aussi la décaper de tout le glamour dont le cinéma d'auteur masculin l'avait paré. Elle veut vraiment la mettre à nu, et ce qu'elle fait dans le film est vraiment sidérant. Elle joue à la fois comme un automate, on a l'impression que tous ses gestes sont automatisés, et en même temps, il y a quelque chose de... une présence palpitante à l'intérieur. Enfin, c'est à la fois une machine, mais une machine sensible. C'est vraiment une des plus belles interprétations de toute l'histoire du cinéma, ce qu'elle fait dans Jeanne Dillman. Et le film, je pense qu'il y a peu de films aussi conceptuellement parfaits que Jeanne Dillman. C'est vraiment à la fois un chef-d'œuvre de la pensée, et c'est une machine conceptuelle parfaite, et en même temps c'est aussi un chef-d'œuvre dans son exécution. C'est-à-dire que chaque plan, séquence, extrêmement élaboré et complexe à concevoir, est une splendeur plastique. Donc à divers titres, je pense que c'est légitimement le film que Sight and Sound a choisi comme le plus grand film de l'histoire du cinéma.
Oui, la revue de cinéma américaine vient de l'élire comme meilleur film de tous les temps, mais à l'époque, il n'a pas du tout été reçu comme tel. Le sélectionneur de la quinzaine des réalisateurs, au départ, n'en voulait pas. C'est la monteuse du film, Patricia Canino, qui l'a harcelé pour qu'il sélectionne le film. Et lui, il a cru qu'il allait perdre sa place. Et lors de sa projection à Cannes, une grande partie des spectateurs a quitté la salle. Marguerite Duras a traité Chantal Akerman de folle. En fait... Non ?
Non, pas tout à fait. Elle parlait du personnage. Elle a dit cette femme est folle, mais elle parlait pas de Chantal Akerman. Elle disait que Jane Dillman était folle. Et il faut dire que dans le système du race, c'est un compliment en fait. La folie des femmes est en mode de résistance et d'émancipation. Mais ça ne plaisait quand même pas du tout à Chantal Akerman. Et Chantal Akerman a été agacée. Elle dit mais non, pourquoi vous dites ça ? Elle est pas folle. Et d'ailleurs, Chantal Akerman a rapporté que Delphine Seyrig était un peu gênée que cette petite gamine de 24 ans, même si c'était déjà un génie du cinéma, ose contredire Marguerite Duras, et Delphine Seyrig a ensuite un peu tensé Chantal Akerman, lui a reproché de son insolence d'avoir contredit Marguerite Duras.
Finalement, avec ce film, on se rend compte que Delphine Seyrig, elle a toujours été attirée par les films expérimentaux, parce que dès son premier film, l'année dernière à Marianne Bad, il y avait une remise en question des codes cinématographiques.
Ah oui, complètement. Ce qui l'intéressait, c'était l'invention et la nouveauté. Très rarement, elle est allée vers un cinéma commercial, mainstream, vers des formes traditionnelles. Au théâtre, elle a choisi de travailler avec Claude Régis, qui est aussi un des grands déconstructeurs de formes. Elle a fait venir, elle a fait vraiment découvrir le théâtre anglais à Harold Pinter. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment le renouvellement des formes. Ensuite, dans un deuxième temps, la transformation de la société par le féminisme. Mais en tout cas, elle a toujours voulu faire advenir le nouveau.
Alors, si vous seriez marié à ce misogyne là, est-ce que quel conseil pratique, je sais pas, vous pourriez donner aux femmes qui sont mariées avec
un misogyne? Ah mais je crois qu'elles aiment ça, n'est-ce pas? Parce que au moment où on marie, on choisit.
Oui.
Alors ça se voit tout de suite, un misogyne. Oui. Alors il y a peut-être des femmes qui aiment les misogynes, ça. Moi je suis tout à fait tolérante, vous savez, il faut laisser les gens bien libres de mener leur vie comme ils veulent.
On dit que les misogynes sont les meilleurs amants, est-ce que c'est vrai?
N'en ayant jamais fréquenté, je suis incapable de vous répondre.
Alors
on vient d'entendre un extrait du premier film réalisé par Delphine Seyrig avec le collectif Les Insoumuses. C'est Mazo et Miso vont en bateau. C'est le montage qu'elles font à partir d'une émission de télévision de Bernard Pivot, qui a voulu célébrer entre guillemets la fin de l'année de la femme, parce qu'évidemment il le fait de manière totalement ironique et moqueuse. Mazo, c'est la secrétaire d'État à la condition féminine Françoise Giroud qui est l'invitée de l'émission, et Miso, ce sont les hommes qui se succèdent autour d'elle pour déclarer des propos sexistes et misogynes pendant une heure, hein, comme quoi une femme ne peut pas être une grande chef cuisinière, une femme ne peut pas être une grande navigatrice, etc. Et les réalisatrices ont remonté l'émission pour souligner son sexisme et l'absence de réaction et de réponse de Françoise Giroud. On est en 1976, donc c'est à ce moment-là que Delphine Seyrig entame sa carrière de réalisatrice. Est-ce que le documentaire, ça va être une caisse de résonance de son engagement et de ses convictions féministes ?
Oui, la vidéo en général, ce support qui apparaît dans les années 70, et donc Carole Roussopoulos est une des pionnière en femme, va permettre l'émergence d'une parole contestataire qui n'est pas celle qu'on entend dans les médias majoritaires ou dans le cinéma beaucoup plus cher à produire. Donc c'est un appel d'air tout à coup. Ça permet de dire des choses qu'on n'entend pas. Ces films clandestins, vidéo. Moi, ce que vraiment Mazo et Miso, c'est un film extrêmement joyeux. C'est ce qui me frappe le plus dans le film. C'est-à-dire que c'est un jeu de massacre, mais on sent vraiment que c'est une bande de copines, enfin de gens très très proches, qui sont portés par un idéal commun et une joie de se diriger ensemble vers cet idéal commun. Et c'est vraiment un film d'une drôlerie. Il y a une joie vraiment qui émane de chaque tour que joue le film aux personnages qui sont à l'image, à savoir François Giroud, Bernard Pivot et tous les gens vraiment affreux qui se succèdent pour dire que, comme vous l'avez dit, qu'une femme ne peut pas être grand couturier, qu'une femme ne peut pas être grand chef cuistot, etc.
Le film est totalement hallucinant. On se demande comment cette émission de télé a pu être diffusée un jour sur l'ORTF. Il est disponible d'ailleurs, le film Mazo et Miso, sur Dailymotion. On peut le voir actuellement. Aussi, je crois que Françoise Giroud a essayé de bloquer la sortie du film.
Ah, j'ignorais, je savais pas du tout. C'est vrai que le c'est presque à un moment donné dans le film, on se dit que la violence qui est exercée contre elle, On peut se poser la question de savoir si c'était pas contre-productif que la seule femme qui est à l'image soit à ce point tabassée par le film. Mais finalement, d'une manière très forte à la fin, ce qui est exprimé dans un carton, c'est que ce n'est pas du tout la personne, François Giroud, qui est en cause et qui est l'objet de la très grande colère des quatre co-réalisatrices, mais c'est plutôt ce qu'elles veulent pointer, c'est l'impossibilité d'incarner ce féminisme d'État dans ce gouvernement-là de droite. Donc c'est sa place qui est impossible et ce n'est pas la personne qui est attaquée.
Alors elle va réaliser 3 autres films, tous aussi féministes, puissant et engagé. À chaque fois, elle veut rendre visible le sexisme à l'œuvre au cinéma et dans la société et transmettre une parole politique. Donc, elle va réaliser par la suite Scum Manifesto en 76, la lecture du texte de la féministe américaine Valérie Solanas. Et Sois belle et tais-toi, évidemment, qui vient de ressortir en salle, réalisé en 75 et 76 et sorti en 1981, dans lequel Delphine Seyrig recueille la parole de 23 actrices sur les empêchements auxquels leur métier les confronte. Donc, on retrouve comme actrice Jane Fonda, Barbara Steele, Juliette Berthaud, Anne Wiazemski, Shirley MacLaine, Maria Schneider. On se doute que l'idée de ce documentaire lui vient de son expérience personnelle dans le cinéma. Est-ce que vous savez si c'est une expérience en particulier? Qu'est-ce qui lui a donné l'envie de faire ce film? Ou est-ce que c'est ses rencontres et ses échanges avec ces actrices qu'elle a à un moment donné de sa vie croisées dans son parcours?
Je pense qu'elle a, après 10 années où elle a vraiment galéré, à partir du moment où elle devient une vedette avec l'année des Marianne Bad, elle acquiert une position qui l'expose moins que beaucoup d'autres actrices à la violence sexiste. Donc si c'est nourri d'observations personnelles, mais dont elle n'a pas forcément été la première victime, aussi donc de son dialogue avec d'autres actrices, mais je pense aussi que les 3 films dont vous parlez compose vraiment quelque chose de très articulé. Le premier, donc Mazo et Miso, c'est la parole qu'on entend trop. Elle veut disqualifier à la fois la parole sexiste, mais aussi une parole féministe superficielle et opportuniste qui est celle donc que porte Françoise Giroud. Et après cette parole officielle qu'elle va cassée avec le film, elle veut faire entendre d'autres paroles, de paroles qu'on n'entend pas, celle de Solanas avec un texte qui était devenu introuvable, ou celle d'actrices à qui, donc pourtant on entend beaucoup la parole des actrices en 76, elles sont interviewées tout le temps, sauf qu'on leur pose pas les questions qu'elle va leur poser. Donc tout à coup elle fait jaillir une parole qu'on n'entendait pas, et donc je pense que c'est ce projet là quelle parole on entend, quelle parole on n'entend pas, et qu'elle veut corriger, amender la parole qu'on entend trop et lui substituer une parole des choses jamais, jamais oui.
Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. La presse, c'est partagé la presse, mais c'est quand même des hommes. Les agents, c'est des hommes qui dirigent, qui te donnent un script, qui te conseillent, qui t'orientent, sont des hommes. Et j'ai l'impression qu'ils ont des sujets pour les hommes.
Alors, comment sont reçus ces films à leur sortie? Est-ce que le fait que ce soit Delphine Seyrig qui les réalise ou co-réalise leur donne un coup de projecteur? Ou au contraire, est-ce que ça énerve qu'une star comme elle fasse des films aussi engagés? Parce qu'on sait que les féministes ne sont pas toujours bien vues, surtout à cette époque.
Sois belle et tais-toi, par exemple, a eu un retentissement plus fort en ressortant presque 45 ans après avoir été fait il y a 2 mois. Que lorsqu'il a été fait à la fin des années 70, le film est tourné entre 75 et 76. Il ne va être distribué en salle qu'en début 81 et de manière vraiment très très marginale. Je ne sais pas exactement, mais peut-être une salle ou deux. Il va rester très peu de temps à l'affiche. Il va être diffusé sur France Télévisions à minuit et demi en 1983 ou 84. Donc le film n'a vraiment aucune existence et ce n'est que par des réseaux souterrains qu'il va exister, devenir peu à peu mythique, mais ça met beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je dirais que c'est vraiment en fait, le développement d'outils comme YouTube qui a permis au film de devenir culte. Des extraits ont été mis, ces extraits sont devenus viraux, notamment celui, évidemment, de Jane Fonda. Donc, le culte autour du film s'est construit, je dirais, ces 10 dernières années. Et le film a une valeur d'usage beaucoup plus forte depuis 10 ans qu'il en a eu lors de sa conception, où il a vraiment été un peu invisibilisé.
Son quatrième documentaire, c'est Pour mémoire, réalisé en 1987. C'est un hommage à Simone de Beauvoir un an après sa mort. Donc elle a réalisé 4 documentaires et je me suis dit, tiens, elle n'a jamais réalisé de fiction, mais j'ai appris en lisant votre livre qu'elle avait un projet de film qui aurait pu être son premier long métrage de fiction, un film sur Calamity Jane, écrit à partir des lettres que Calamity Jane aurait écrite, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit ses vraies lettres, aurait écrite à sa fille qu'elle avait abandonnée à l'âge de 4 ans. Alors qu'est-ce qui l'intéresse dans l'histoire de Calamity Jane? Est-ce qu'elle y voit une figure féministe?
Oui, bien sûr, puisque Calamity Jane, elle a voulu occuper une place qui n'était pas dévolue aux femmes au 19e siècle. Une femme cow-boy, une femme, un corps féminin dans l'Ouest qui ne comportait que des corps masculins. Donc cette insoumission à ce qu'on attribuait comme une fonction féminine à l'époque, je pense que c'est ce qui la séduisait très très fortement. Elle y voyait une figure de révolte. Et je pense qu'elle avait aussi un plaisir d'actrice à s'imaginer jouer un cow-boy. Je pense que de façon plus intime, il y a une résonance, puisque c'est donc des lettres adressées à une fille, à une petite fille dont elle ne s'est jamais occupée, qu'elle a choisi de mener sa vie autrement que dans l'éducation de cet enfant. Elle en a beaucoup souffert. Ça a pu résonner, même si c'est pas du tout ce qu'elle a vécu, mais à un moment donné, son fils vit aux États-Unis, elle l'a très peu vu. Je pense qu'il y a une résonance intime aussi très forte dans ce projet. Mais hélas, elle a travaillé des années sur ce projet et elle n'a jamais réussi à le faire financer.
Alors c'est un projet sur lequel elle a travaillé de 1979 à 1986. Elle en a écrit le scénario, le storyboard. Elle est partie aux États-Unis avec Babette Mangold. C'est intéressant, elle a fait des repérages avec Babette Mangold qui était la chef opératrice de Jeanne Dielman. Et ça devait être un film de famille avec Coralie Sérig, la nièce de Delphine Sérig, et Samy Frey, son compagnon. Est-ce que vous pensez que le projet était trop ambitieux pour trouver un producteur qui accepte de le financer ?
Oui, je pense que lorsqu'elle essaie de le faire financer dans les années 80, son statut d'actrice est moins puissant qu'il l'a été dans les années 60 et 70. Donc le fait qu'elle joue le rôle principal, je pense, comme elle n'était plus du tout perçue comme une actrice bankable, je pense que était un frein. Je pense que ce que ça racontait paraissait aussi trop étrange, le western n'étant pas du tout traditionnellement un genre appartenant au cinéma français. Tout dans ce projet était trop bizarre pour le cinéma en pleine restauration en plus des années 80, parce que si les années 60 et les années 70 sont plutôt des décennies qui ont encourager l'innovation esthétique, les années 80 c'est plutôt un moment de crispation et de retour à un cinéma plus traditionnellement narratif. Donc voilà, les planètes étaient pas alignées.
Vous écrivez dans votre livre, Delphine Sérig continue de nous parler, plus que jamais depuis sa disparition, elle semble notre contemporaine. Pourquoi Delphine Sérig n'a jamais été aussi actuelle? Est-ce que parce qu'elle était une précurseuse?
Oui, je pense qu'elle était vraiment visionnaire. Je pense que malgré tout, elle a évidemment, dans les années... d'un point de vue esthétique dans les années 60 et 70 et d'un point de vue politique dans les années 70, très fortement rencontré son époque, hein, quand même. Je ne dirais pas qu'elle n'a jamais été la contemporaine de ses contemporains, au contraire, je pense que sa parole dans les années 70 a été éclairante pour les gens qui l'ont entendue à l'époque, mais à la fois dans les 10 dernières années de sa vie, sa présence a été marginalisée par le cinéma, et puis dans les je dirais peut-être 20-25 ans qui ont suivi, même si les cinéphiles continuer à admirer son œuvre, je pense que sa parole ne résonnait pas tellement au-delà du public des cinémathèques, disons. Et je pense qu'avec le regain et la vivacité nouvelle de la pensée et de la parole politique féministe, tout à coup, il y a eu le besoin de trouver des filiations, de trouver des paroles éclairantes de précurseuses et que celle de Delphine Sérig était vraiment visionnaire.
La question de bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Quand un homme se marie, il épouse une femme de ménage gratis. Le bonheur, c'est l'indépendance, d'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. Je suis le type de l'esclave. Je sais exactement ce que c'est que l'image que les hommes veulent avoir des femmes. Moi, à partir du moment où je m'en rends compte et où je le dis, je deviens quelqu'un de très antipathique pour les hommes. En fait, la beauté est d'abord une chose qui passe, est une chose sur laquelle on nous apprend beaucoup à compter et sur laquelle on ne nous apprend pas. On nous apprend aussi qu'on la jette à un certain moment donné, la beauté, parce qu'elle passe, parce qu'elle n'est plus égale à elle-même. Ma célébrité, elle est due au plus grand des hasards et à l'appui certainement de des hommes.
Dernière question, Jean-Marc, pour aborder l'œuvre de Delphine Seyrig, par quel film nous conseillez-vous de commencer? Quel est votre préféré de sa filmographie?
C'est hyper dur comme question. C'est vraiment... j'ai une grande difficulté. Je dirais que Jeanne Dielman est peut-être le chef-d'œuvre absolu. Je vais vous reprendre plusieurs titres. Que d'un point de vue intime, je suis quand même enclin à parler de ce qui est la première émotion pour moi, qui est Podan, puisque c'est le film par lequel je l'ai découverte, et qu'en fait, Delilah, je la trouve évidemment magique. Et voilà, j'ai été vraiment marqué à jamais par la fée Delilah. Et pour donner un troisième titre... je dirais Baxter Vera Baxter de Marguerite Duras, qui est moins connue qu'India Song, mais c'est très beau la façon dont dans le film on a le sentiment qu'elle est la déléguée de la cinéaste, qu'elle se promène dans le film en délégation de Marguerite Duras, elle interroge les autres personnages pour leur faire raconter leur histoire, elle est comme la réalisatrice réincarnée dans son film, et ça c'est vraiment très très beau.
Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire.
Mais je l'aime.
Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours.
Il me presse et je dois lui rendre réponse demain.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends.
C'était Silence, elle tourne, un podcast revu et corrigé, le média des classiques du cinéma, coproduit par Tsugi Radio. Merci beaucoup Jean-Marc Lalanne.
Merci beaucoup Asta.
Votre passionnant ouvrage Delphine Seyrig en construction, paru aux éditions Capricci, est en vente en librairie et sur internet. Le chef-d'œuvre de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles, ressort en salle en version restaurée le 19 avril. Allez-y absolument parce que c'est un chef-d'œuvre qu'il faut voir sur grand écran. Le documentaire de Delphine Seyrig, Sois belle et tais-toi, restauré par Splendor Film, est toujours en salle. Et j'ajoute qu'il y aura une séance de son documentaire Scum Manifesto, réalisé avec Carole Rousseau-Poulos, le 21 avril à 20h au Luminor, dans le cadre du Festival de films de femmes de Créteil, Hors les Murs.